Je me pointe en rendez-vous et les types en face de moi ont plein de termes techniques, de jargon que je connais pas ou très peu. Et voilà, et tu fais juste tu fais comme si tu comprenais, tu parles de façon un peu plus générale qu'eux, et puis ça passe, quoi. Ça donne le change. Mais effectivement, je me rappelle de situations très gênantes où tu dis, putain, j'ai aucune idée de ce qu'il est en train de me dire. Mais ouais, on sait faire.
Bienvenue dans La Galère, le podcast qui raconte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés pendant les premiers mois de leur aventure. On y parle des galères du début, de la débrouille, des petites astuces pour convaincre les premiers clients et de tous ces détails qui font la différence entre le succès et l'échec d'une entreprise. Je suis David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui aide les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stfu.pro. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à La Galère pour ne pas rater la sortie du prochain épisode et à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcasts afin d'aider d'autres personnes à découvrir l'émission. Bonne écoute!
Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent, vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash, FLASH. À très vite et bonne écoute.
Bienvenue dans La Galère, je suis David Flack, le cofondateur de Start the Fuck Up, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alban Sayag, le cofondateur de Big Blank, le startup studio d'Air France. Salut Alban.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter un peu à nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu as fait avant?
Oui, moi je suis un entrepreneur depuis un certain temps. J'ai démarré assez jeune. J'ai eu 4 boîtes, certaines qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Et puis je me suis retrouvé il y a un peu plus d'un an et demi maintenant à démarrer l'aventure Big Blank.
Ok. Et Big Blank aujourd'hui, ça représente quoi?
Alors Big Blank, donc c'est un startup studio, c'est donc une entreprise dont le but est de créer des startups à la chaîne de façon un petit peu industrialisée. Depuis 18 mois, c'est à peu près 50 sujets qui ont été évalués, c'est 17 projets qui ont été testés, donc MVP, produits lancés sur le marché, et 4 startups aujourd'hui qui ont une traction, qui vont lever des fonds.
Ok, parfait. Donc ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant avec Alban, c'est que tu as lancé plein de boîtes. Donc quand on préparait ce podcast, on se disait mais de quelle boîte on va parler, etc. L'objectif de La Galère étant de parler vraiment des galères du début. Est-ce que tu peux nous raconter déjà le commencement, la première boîte que tu as créée à 19 ans?
Ouais, alors effectivement, hyper jeune à 19 ans, et c'est le résultat d'une discussion de fin de soirée avec un pote. Je crois qu'on est rentré et on s'est dit, t'imagines si on pouvait... par exemple, décrocher quand on nous appelle directement avec un truc sur l'oreille et puis commencer à parler.
Dans quelle année, là?
On est, je me rappelle même plus, mais on doit être dans les années, début des années 2000, quoi.
Ok. À la télé.
Ouais, c'est ça, on n'y connaît rien. On fait le parallèle avec, Michael Jackson ou Madonna qui chantent avec un micro sur l'oreille. Et on se dit, putain, un téléphone mobile, ça devrait pouvoir faire la même chose. On n'y connaît rien, on n'est pas ingénieur. On est plutôt des mecs du business, du design.
Donc les deux, vous étiez à...
On était 3.
Ok, en école de commerce.
Un école de commerce, c'était moi, un gars de la pub et un gars du design produit.
Qui avait le même âge que toi?
Même âge que moi, ouais.
Ok.
2 potes. Et donc, aucune connaissance technique, mais on se dit, regarde, on écoute bien la radio, on peut transmettre du son et de l'information d'un endroit à un autre par les ondes radio. Ça devrait être jouable de faire un truc comme ça.
Et comment tu avais cette confiance en toi à 10 ans de dire, je suis capable de lancer un business? Tu avais quoi? Tu vendais des trucs avant?
Ah ouais, alors je pense.
Tu faisais de l'achat-revente de Kinder Bueno?
En partie, ouais. Alors deux trucs. Ça vient d'un père qui faisait ça pas mal à la chaîne, qui a eu pas mal de boîtes aussi. Et puis, démarrer un peu plus tôt, alors là, ça va pas me rajeunir, mais avec du business de CD et DVD gravés, pirates.
D'accord.
Ça a été la première expérience.
T'étais le petit geek qui allait sur Napster.
Et je les vendais, je les vendais à la récré, ouais.
Parfait. Combien tu les vendais?
Je les vendais quelques dizaines, c'était même pas des euros, je pense.
T'avais un taux de marge à 200%.
Ouais, exactement. Et ça marchait vraiment super bien. Mais tout ce qui est un peu border, en général, marche plutôt pas mal.
Trop bien. Ok, donc du coup,
donc on se retrouve
discussion de fin de soirée
avec cette idée et petit à petit, sans en avoir l'air, on est en train d'essayer de s'attaquer à développer un protocole de communication sans fil, en fait, avant que Bluetooth existe, mais un truc très similaire. Et voilà, on est trois gars du business, on n'y connaît rien. Donc voilà, on se lance là-dedans, on commence à aller voir des gens qui travaillent sur des microchips, donc c'est des Texas Instruments, des gens comme ça, et on pitch un truc qui ressemble à on doit bien pouvoir faire comme la radio dans la bagnole, transmettre de l'info, et la première application de cette techno qu'on verrait, c'est une oreillette sans fil pour les mobiles, quoi.
Donc déjà, vous avez eu quand même ce sens business de se dire on va trouver une première application hyper ciblée sur une petite niche qui est donc la personne en scooter et on va essayer de créer un produit pour lui. Comment est-ce que tu savais que c'était lui le meilleur use case?
Ouais, franchement, à cette époque-là, je sais pas trop. On l'a pas trop raisonné. Maintenant, j'aurais un peu plus de méthode, je pense, pour y arriver. Mais à cette époque, c'est juste le truc le plus cool qu'on voyait. Okay. Donc, on se disait trop bien. Voilà, si je peux téléphoner, décrocher, tout ça, sans prendre mon téléphone, ça va le faire.
Donc là, vous avez cette idée. Donc, vous voyez quoi après les cours, le week-end?
Et ouais, c'est ça. On
Comment
se
vous
voit
vous répartissez
exactement
les tâches
après les Qui cours, le week-end. Eux, à l'époque, sont à Paris. Moi, j'y suis pas. Donc on fait des allers-retours, on bosse des soirées comme ça et on se retrouve à aller présenter des planches design en fait et une ébauche de BP, mais fait un peu à l'arrache, à ce qui deviendra la BPI, qui avait un autre nom à l'époque.
Et donc, ils voient débarquer trois gosses de 19 ans, ils tremblent pas, ils se disent ok, on
Je sais pas, ouais, assez absurde et on n'y croyait pas trop et on est ressorti, on avait un chèque de l'équivalent de 100 000 euros maintenant. Et on a dit bon bah trop bien on le fait quoi, voilà.
T'as levé un seed.
Ouais c'est ça.
sans savoir.
Franchement sans le savoir, sans vraiment savoir ce qu'on faisait. Et ça c'était pas le plus.
Et vous aviez une structure légale à ce moment-là?
C'était on a après vite juste après ça monté une boîte. Ouais. C'est eux qui nous ont amenés là-dedans.
Très bien.
Et ça c'était pas le plus dur en fait. Après là où je pense qu'on a vraiment eu avec le recul l'air un peu bête, c'est quand on allait voir vraiment des gros industriels. Qui faisaient des chips quoi, et qu'on leur parlait sans vraiment rien comprendre à ce qu'on disait d'un point de vue technique. Mmh. On avait juste une vision d'un produit cool qu'on allait porter et qui était...
Et donc, comment vous, donc là, vous dites qu'il faut faire ce truc-là. Donc, ouais. Vous avez repéré qu'il faut aller voir telle industrie, telle usine.
Ouais.
Vous prenez rendez-vous avec eux. Vous arrivez comment? Vous avez un PowerPoint? Même pas?
Ouais, alors on galère en plus parce que la plupart veulent pas nous recevoir. Mmh. Ça sort de nulle part. Ce qu'on sait pas à l'époque, mais ce que ces industriels savent, c'est qu'il y a un consortium qui est en train de se créer pour créer Bluetooth. Donc on est potentiellement.
Mais ça n'a des pays non plus, t'es pas au courant du coup.
Non, ouais, voilà, concurrent de ça.
Ok.
Y en a qui nous reçoivent tout en savant qui bossent sur autre chose. Et puis on finit par trouver quelques partenaires qui veulent bien bosser avec nous et qu'on paye, qui sont à l'époque des sous-traitants. On fait quasiment tout avec des sous-traitants.
Ok.
Et c'est d'ailleurs un des trucs qui n'était pas spécialement une bonne idée. Hein, c'est-à-dire que on part quand même sur un truc qui est une tech et on n'a pas de tech dans l'équipe. On s'est fait pendant un certain temps raconter n'importe quoi. Après, on est des gens on apprend vite. Donc, au bout d'un an et demi, c'était un peu différent. Mais au début, on s'est bien fait raconter n'importe
quoi. Et quand tu vas voir l'industriel, tu lui dis que tu es encore à l'école, que tu viens, tu sèches les cours.
Ouais, je sais plus, on
venir.
Dit rien, on vient en costard, on fait genre. Et voilà, et comme ce qu'on montre a un peu de la gueule, parce qu'en fait, on vient de là. Donc, on rappelle, il y a un mec de la pub, il y a un mec du design, ce qu'on montre c'est beau, ça a de la gueule, on a un peu de voilà, on a un
enfin,
peu de
bagou. C'est un mec de la pub du design, c'est un mec en première école de pub, en première année d'école de
ouais,
pub.
Ouais, c'est
en
ça,
première
c'est
année
ça.
D'école de design.
Mais franchement, c'est qui se sont révélés avoir pas mal de talent après par la suite, mais du coup, voilà, je pense que ça donne le change, mais les mecs, je pense en face se disent ils n'ont absolument aucune idée de ce que ça représente, ce qu'ils essayent de faire. Mais voilà, il y en a petit à petit qui nous soutiennent. On a plutôt des bons qui commencent à bosser sur la tech. On bosse avec, à l'époque, Canon pour faire la production de ces
Et comment vous avez estimé la taille de la production? Combien vous pensez en vendre? Vous faites au doigt mouillé tout
ouais,
en fonction de l'argent que vous avez
Ouais, c'est ça. On fait tout en fonction des moyens qu'on a. On se dit étape par étape, ça coûte une fortune hein, en fait de mettre des produits comme ça hardware en production. Il faut développer des moules, il faut les faire produire, etc. On se dit juste, vas-y, on fait au plus économique, on fait avec ce qu'on peut, ce qu'on a, et on verra bien ce qui se passe quoi. Et on commence à avoir, on essaye d'avoir une forme de précommande avant même d'avoir commencé la production.
Et à l'époque, comment tu fais pour avoir des précommandes? Il n'y avait pas encore les sites de crowdfunding, etc.
Non, mais il y avait, on va voir directement, c'était l'époque des, ça date, mais c'était l'époque des packs. Donc en fait, les opérateurs mobiles se bagarraient tous pour vendre des abonnements et des téléphones. Et donc, ils rajoutaient le plus d'accessoires possible pour, en gros, te teaser quoi, et faire en sorte que tu ailles chez lui et pas chez l'autre. Donc, on va tous les voir. On va voir Orange, on va voir... voilà.
Tu vas voir qui chez Orange? Comment tu prends le rendez-vous? Comment tu as le contact? Il n'y avait pas LinkedIn à l'époque.
Non, je sais plus comment on fait ça. Franchement, on a dû y aller, au téléphone, quoi. Enfin, voilà, on essaie de contacter les gens.
Le service commercial.
On a fait des courriers. Je crois qu'on s'est fait, on s'est fait aider par quelques personnes aussi du réseau qui devaient connaître du monde. Et à droite, à gauche, on arrive à envoyer notre pitch et on leur dit, bah voilà, on va vous faire, on a une tech, on va vous faire une oreillette sans fil.
Quand t'es en rendez-vous avec un mec d'Orange, t'as 19 ans, que t'es pas tech et tout ça, que tu lui expliques que tu vas lui mettre de la tech embarquée.
Lui, ça va, il y voit que le produit. Puis après, on drop des noms un peu. On dit, voilà, on bosse avec Canon, on bosse avec Texas Instruments.
Tu joues le petit génie, quoi.
Ouais, voilà, on leur dit ce qui était pas faux, hein, mais on en rajoute un peu, qu'on a des gros partenaires, qu'on sait ce qu'on fait, que le truc fonctionne, financé par BPI. Voilà, ça donne à peu près le change.
Et à cette époque-là, la bulle Internet avait explosé ou pas encore?
Et non, pas encore. Je crois qu'on était...
Donc vous surfiez était... sur ça aussi, ouais, sur le côté, OK, ils ont 19 ans, mais ils savent des choses qu'on sait pas.
Juste
parce
avant,
que...
ouais, ça passe bien. Encore une fois, ce produit-là n'existe pas. Les mecs voient bien, les opérateurs voient très, très bien l'intérêt d'avoir ça intégré dans leur pack. Donc, on se retrouve à avoir des intentions de commande assez vite, en fait. Okay. Et derrière, on se dit, bah, une fois que j'ai les intentions de commande, je peux commencer à lancer des pré-productions. Et le truc commence à se mettre en place petit à petit, mais ça fait là, quand on en est là, ça fait presque 3 ans qu'on a démarré quand même.
D'accord. Donc en 3 ans, donc là tu passes, vous en foutiez en fait de gagner de l'argent parce que vous étiez en école, c'était pas...
Ouais, voilà, on rêvait juste d'un truc, ouais, qui pouvait devenir énorme. Et entre temps, ouais, effectivement, on s'en foutait, on était chez nos parents, voilà.
Et t'arrivais à suivre en cours avec cette excitation de la boîte à côté
Et ouais, on y arrivait. Alors franchement, c'était pas effectivement pas hyper simple, mais ça va, ouais, ça va, on l'a fait.
Ok. Et du coup... vous avez réussi à sortir le premier truc, à avoir le premier client?
Et non, alors enfin, là où ça a commencé à se durcir, c'est là. Donc on arrive à 3 ans, on commence à avoir nos premières précommandes.
C'est long, 3 ans quand même.
Ouais, c'est long, c'est beaucoup de tech. Mais 3 ans, voilà, et beaucoup de prototypage, beaucoup de choses à miniaturiser, ça prend vachement de temps. Et on arrive au bout de ces 3 ans, on commence à signer donc nos premières précommandes, Orange, je crois, Team, un opérateur en Italie, et quelques autres. Et à ce moment-là, quasiment exactement à ce moment-là, il y a les annonces de Bluetooth qui arrivent. Donc, faut imaginer que nous, quand on montre notre produit, il y a un émetteur-récepteur qui se plug sur un téléphone et un autre sur l'oreille, quoi, qui vont communiquer. Et là, il y a annonce de Nokia et de plein d'autres qui disent, bah voilà, maintenant on a un chipset qui est intégré dans le téléphone. Il y a plus besoin de plugger quoi que ce soit. Bon, on se dit c'est mort, quoi. Et effectivement,
tout de suite, tu le comprends dans la seconde.
Ouais, alors, ce qui était une erreur, c'est-à-dire que, et on pourra en reparler sur d'autres sujets, à l'époque, on comprend pas qu'on peut pivoter, en fait. Je pense que la bonne réponse à ce moment-là aurait été de dire, on s'en fout, en fait, on jette notre tech, ce qui compte, c'est l'application qu'on en fait avec la tech, on a un beau produit, on a des commandes, on s'en fout, on met un chip Bluetooth dans notre truc au lieu de garder notre tech, et puis feu, quoi. Et on se dit pas ça, on se dit, merde, on pensait que notre tech, elle avait plein d'avantages sur Bluetooth, on avait un pitch bien rodé, on se dit juste, bah voilà, il y a un nouveau truc, c'est terminé, quoi. Ça nous plie et on arrête, et on a arrêté d'ailleurs assez vite, au lieu d'essayer de voir les choses un peu différemment, quoi.
Et comment ça se passait avec tes associés, du coup, de l'époque? Ça s'entendait, vous entendez bien, les rôles étaient bien partagés?
Ouais, là-dessus, on n'a pas eu vraiment pas eu trop de problèmes. On avait aussi un peu de différence d'implication. Donc, il y en avait un notamment qui n'était pas vraiment à 100% dessus, qui faisait ça un peu en bonus. Et deux qui étaient très impliqués, mais on n'a pas eu de problème. C'était vraiment des potes, donc on n'a pas eu de problème de désaccord ou ça a été. Et de la même manière, on a été assez vite d'accord ensemble, mais je pense parce qu'on était jeunes aussi, de se dire bon, ça y est, maintenant on rend les armes, on peut pas se battre contre un Bluetooth, voilà. Ce qui était une erreur, je pense.
Ok, donc t'aurais dû avoir un peu plus de résilience parce que en fait t'avais constituer des fournisseurs, des clients.
Ouais,
déjà, en fait, tu avais ça comme asset et tu t'en rendais pas compte. Tu pensais que tu avais que la tech alors que tout ce que tu avais construit commercialement avait de la valeur.
Exactement, et d'autant plus que la personne au bout de la, du process qui va t'acheter ton produit, il en a rien à foutre de savoir si c'est un chip Bluetooth ou un chip autre dedans. Donc, on aurait simplement dû se dire, ce qui compte, c'est l'application consumer derrière. On a bien avancé, on change juste de tech et ça ira, quoi. Mais voilà, on se disait, ça sera moins défendable. Et puis, quand ça fait 3 ans que tu te mentalises sur ta tech, t'as du mal, quoi.
Ok, donc là, c'est la fin de l'aventure.
Là, c'est la fin de l'aventure, ouais.
Donc là, tu es en train de finir tes études.
Là, je suis en train de finir mes études. Je crois qu'il me reste une année, parce que j'ai pris entre-temps un semestre de retard, parce que voilà, quand même, ouais. Il fallait gérer le reste. Donc, je termine mon semestre et je remonte une boîte, en fait.
Donc, tu étais à l'école en Suisse, à Lausanne ?
J'étais à l'école à Lausanne, ouais.
Et là, tu décides de lancer une agence digitale.
Et voilà, là, je cofonde ouais, avec d'autres une agence digitale plus classique, quoi. On bosse sur des projets ouais, digitaux pour des grands groupes de transformation. Par exemple, on fait le premier e-commerce de Nespresso. Ils ne vendaient pas en ligne à ce moment-là.
D'accord.
On fait des systèmes de campagne temps réel pour Orange. On fait des trucs de ce genre-là.
Là, on est en quelle année ?
Là, on est 2003.
Tu es diplômé.
Ouais.
Et tu lances tout seul, t'as un associé, comment tu le trouves ? T'as un tech du coup là dans l'histoire ?
Ouais, là on commence avec, je commence avec des gens un petit peu plus âgés en fait.
Comment tu les as rencontrés ?
Du domaine, pur réseau. Donc il y a mon père, il y a des amis de mon père, voilà, qui a un domaine qu'il connaît.
Toi qui finis, tu te dis, je vais créer une agence digitale parce que j'ai envie de bosser, parce que j'ai des contacts là-dedans qui vont me permettre de faire des sites et d'autres projets digitaux pour des grands groupes.
Direct, ouais, c'est ça.
Tu pars
ça,
sur ça.
Ouais, c'est ça. Et ça commence vraiment...
C'est ton idée ou ça a été soufflé un peu par...
On se dit pas... Non, ouais, c'est un monde que mon père connaissait bien. Il bossait là-dedans, donc c'était assez facile. Je connaissais bien. Et on se dit, bah voilà, c'est une bonne période pour faire ça. Il y a de l'argent. Et en même temps, à ce moment-là, je pense pas du tout à me dire ça va devenir une grosse boîte. Je me dis rien de particulier. C'est-à-dire... je viens de plier une boîte au bout de 3 ans, je termine mes études, je sais pas trop encore quoi faire, je me vois pas me faire embaucher.
Pourquoi est-ce que tu te dis pas, allez, je vais acquérir de l'expérience dans un truc un peu plus solide, avec des process où je vais devoir me lever le matin à telle heure.
Ouais, je sais pas.
Tu ressens pas ce besoin ?
J'en sais rien. Je me dis, je crois qu'à ce moment-là, j'essaye un peu, c'est-à-dire je passe quelques entretiens avec des boîtes et je me dis, je sais pas, ça me paraît galère, j'ai l'impression que ça va pas fitter avec moi.
Et t'avais fait des stages pendant tes études ?
Et j'avais pas fait de stage
même
parce
pas.
Que
t'avais
ma boîte,
ta boîte
était mon
donc
stage.
Ça passait.
Ouais, voilà.
Donc, ok. Donc.
Et en gros, c'est ça que j'ai appris à faire, à monter un business, à apprécier la liberté que ça donne, apprécier le. D'avoir toujours en tête que quelque chose peut arriver, tu vois, de gros, d'important. Et tu te dis dans un taf tous les jours, ça va être compliqué, quoi. Mais donc, voilà, on décide de monter ça. Un peu en attendant, je me dis, je verrai bien. Donc, je rejoins des gars qui le faisaient déjà un peu, donc ils avaient commencé. Et je viens les aider à développer le truc. Et à l'époque, on commence juste à prendre des petites missions. C'est tout ce qu'on fait. On se
donc,
dit,
c'est quoi ton rôle ? Vous êtes combien exactement ? Et raconte-moi ta première vente, du coup.
Ouais, je m'occupe du biz dev à ce moment-là. Donc, en gros, je démarre avec eux et je dis, on va essayer de trouver un peu plus de business. Donc, j'appelle des grands groupes, j'appelle des entreprises publiques et puis je dis, on peut faire des projets tech pour vous, quoi.
Tu les appelles direct, tu prends
ouais,
ton téléphone,
ouais, je les appelle.
Le pôle innovation,
c'est du cold calling.
T'appelles qui dans la boîte ?
Pur et dur. En général, c'est des gens de l'IT à l'époque.
D'accord.
Il n'y a pas encore trop le business qui se met là-dessus. Parfois le marketing, mais beaucoup, beaucoup la tech, l'IT. Et voilà, et on les appelle. Et
tu leur dis quoi ?
Et on leur dit ça, on leur dit on est des experts, on essaye de chaque fois de trouver des espèces de use case, donc on regarde où ils en sont, on regarde ce que peuvent être leurs challenges.
Combien de temps tu
et
prépares
on appelle,
le call ? Ton call, tu le prépares combien de temps avant de le faire ?
Je le prépare rien, juste avant quoi. Je passe, on passe une heure ou deux à se dire ces gars-là, sur quoi est-ce qu'ils peuvent bosser ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme argument ? Voilà, c'est un marché qui est hyper, même déjà à l'époque, hyper concurrentiel. Donc, en gros, c'est plus avoir l'option de venir, montrer que tu as les bons gars pour bosser sur leur sujet. Et puis, okay. Et puis voilà quoi. Donc, et c'est du volume. C'est du volume en vrai parce que c'est très concurrentiel. Donc, tu fais un peu de network, c'est plus facile. Et puis sinon, tu y vas un peu au culot, tu fais du volume et tu convertis peu. Mais n'empêche que quand tu convertis, c'est plutôt des projets qui rémunèrent bien. Et tu arrives à avoir une boîte, c'est très différent de ce que j'avais fait avant, où en fait, très vite, on est rentable, quoi. C'est-à-dire, on est 3-4, pas plus. On commence à faire du billing hyper rapidement, à des taux. Tu vois, on vend entre, à l'époque, entre 800 et 1200 francs suisses, mais donc c'est presque des euros par jour. Ouais, bah voilà, quoi. On est bien, quoi. Très vite, on a un truc.
Et t'es en mode agence digitale, c'est-à-dire que t'envoies pas des gars bosser chez eux. T'es pas SS2I.
Ouais, on fait les deux.
D'accord.
On fait les deux. À l'époque, on est hyper opportuniste. On fait les deux. On prend des projets, ce qu'on préfère. Et puis parfois, un type nous dit, j'ai juste besoin d'un dev 10 jours. On prend un gars de l'équipe, on l'envoie. Il fait 10 jours là-bas, il revient, quoi.
D'accord.
On fait les deux. Et donc, ça commence à prendre un petit peu.
Tu m'as pas raconté la première vente.
La première vente, franchement, je sais pas si...
Ou le premier rendez-vous avec un client, les petites conneries que t'as fait, la honte que tu t'es pris parce que t'as pas compris son langage.
Ouais, là, c'est pareil. Enfin, j'ai pas un exemple précis, mais je me rappelle d'une période qui était le début où effectivement, c'est ça. C'est-à-dire, je me pointe en rendez-vous et les types en face de moi ont plein de termes techniques, de jargon que je connais pas ou très peu et voilà, et tu fais juste tu fais comme si tu comprenais, tu parles de façon un peu plus générale qu'eux, et puis ça passe, quoi. Ça donne le change, donc mais effectivement je me rappelle de situations très très gênantes où tu dis putain, j'ai aucune idée de ce qu'il est en train de me dire, mais ouais on sait faire. Donc là tu dis ouais, pas de problème, on sait faire, ouais bien sûr, on l'a déjà fait avec quelques clients, en gros c'est comme ça que ça se fait.
Et là tu mentais?
Et là, on mentait un peu, ouais. Ouais. Franchement, quasiment à chaque fois qu'on nous parlait d'un sujet, on disait qu'on avait une référence, qu'on l'avait déjà fait. Voilà.
N'iront pas vérifier.
Ou qu'on était en train de signer un client qui nous demandait la même chose.
Classique.
On disait jamais qu'on avait rien.
D'accord.
Ouais, clairement.
Et donc là, tu leur vends donc ces missions. Et la première fois que tu dois faire un pricing, comment tu fais? Comment tu savais que ça se vendait 1200 euros le jour homme?
Ouais, là pour le coup, j'avais la chance d'avoir des gens dans le domaine, enfin un réseau de gens qui bossaient là-dedans depuis un certain temps, donc c'était assez facile. J'avais des conseils de gens assez expérimentés dedans.
C'est parce que si t'es trop bas là-dedans, tu passes pour un.
Ouais, c'est ça. Trop, tu peux pas, mais ouais, faut être au juste milieu. Et ouais, ça c'était purement du conseil de gens du domaine, quoi. Donc, j'étais un peu mieux entouré que la première fois.
Cold calling qui t'amenait à énormément de rendez-vous. Tu faisais ces rendez-vous, t'en convertissais quoi, 10%?
Très peu de conversions, franchement. En gros, tu convertissais peut-être à 10-15% sur le fait d'avoir des besoins. C'est-à-dire, tu avais le droit de répondre, de bider.
Sinon, 85% du temps, le mec te disait non, c'est gentil, mais non.
Ouais, c'est rien. Ça. D'abord, tu te fais... 90% du temps, tu te fais bâcher au téléphone déjà. Mmh. 10% du temps, il t'écoute un peu. 5%, tu peux aller le voir. Et dans 1 ou 2% des cas, tu décroches un business au bout, quoi.
Et est-ce que tu as eu des cas, moi j'ai eu ça pas mal de fois pour faire du business, donc dans ma boîte où nous aussi on vend du conseil, des gens qui en fait sont un peu placardisés, qui t'envoient du rêve en disant ouais, venez faire un rendez-vous et tout, et tu arrives au rendez-vous et tu comprends au bout de 2 minutes que tu t'es fait tracos.
Ouais, carrément.
Et que tu vas perdre 2 heures.
T'as des gens, t'es leur animation de la journée ou de la semaine, clairement, ou faker un peu qu'ils aient encore un peu de pouvoir dans la boîte et qu'ils peuvent prendre
terrible.
Des projets.
Ça, c'est terrible parce que tu comprends en 5 minutes que tu t'es fait avoir.
Clairement.
Et tu te dis putain, j'aurais dû faire un call.
Mais la vente de. Ouais, la vente, en tout cas, mais ça m'a servi après, la vente de prestations, de conseils comme ça, qui, encore une fois, qui est hyper concurrentielle. C'est la meilleure école de sales que tu peux faire, quoi. Et donc j'ai commencé vraiment comme ça.
Et est-ce que du coup tu avais professionnalisé le truc avec un CRM, avec un pipe, où tu essayais d'estimer, voilà, il y a 5 étapes dans mon pipe de vente, à quelle étape pour savoir si je l'ai bien construit et essayer d'estimer les ventes que je vais faire? Est-ce que tu avais professionnalisé ça ou est-ce que c'était vraiment encore la one again?
Ouais, on l'a fait un peu, mais franchement pas tant que ça. En fait, on était plutôt sur du Excel, quoi, et on gérait notre pipe un peu là-dessus, effectivement, avec une base de clients dedans et des stages, mais de façon hyper hyper simple, hyper basique, jusqu'à la signature. Et en réalité, ça c'est pour faire le lien, ça c'est fait assez vite, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, on était 30.
Ah ouais.
30 ou 35, et on est arrivé au milieu un peu du guet en se disant à 30-35, en fait, t'aurais envie d'aller signer les gros projets dans les boîtes, et en fait, tu peux pas, t'es pas assez gros. Et les petits trucs ou aller faire 10 jours, ça t'intéresse plus trop, et tu sais pas tellement comment te positionner, quoi.
30 en 3 ans.
Ouais.
C'est allé comment? C'est la première année, vous étiez 4, ensuite vous passez à 10 et ensuite à 30.
C'était assez, ça a été assez linéaire, quoi. Je crois qu'on a dû faire 5, 6, puis 15, puis 30, quoi. Quelque chose comme ça.
Et donc, toi, tu faisais le sales, et une fois que c'était vendu, tu filais à tes associés qui géraient
ouais,
la mission, quoi.
Ouais, voilà.
Il n'y a pas des mauvaises ventes que tu as fait, des trucs où tu promettais la lune, et quand tu as dit à ton associé, j'ai vendu ça, tout content, il te regarde, il fait, mais t'es un malade mental, on va mourir.
Ouais, alors ça, c'était quasiment. Enfin, c'était quasiment à chaque fois, ouais. En fait, je crois pas une fois, et je l'ai conservé dans d'autres expériences après, j'ai rarement dit non. Enfin, c'est-à-dire, le client disait, c'est ça qu'il faut faire, ouais, pas de problème. Voilà. Et après, on se démerdait.
Et tu penses qu'être un yes man comme ça, ça t'a servi ? Tu penses que c'est une vraie qualité quand t'es un vendeur ?
Je pense que ça dépend dans quoi. Enfin, ça dépend dans quel type de business. Dans celui-là, oui, parce que en réalité, si t'es des merdes et que t'as un peu de réseau et tout ça, t'arriveras toujours à te débrouiller pour sortir ce qu'il fallait sortir. Si tu bosses et que t'es sérieux, dans d'autres domaines, si des trucs plus produits, par exemple, ça peut être un vrai piège d'aller vers ça, quoi. De promettre un truc que t'as pas, ça peut être un gros piège. Dans le service, dans le conseil, je pense que c'est juste le moyen de grandir, quoi. Et après, alors on n'a pas grandi plus que ça. Mais à mon avis, quand tu arrives à l'étape d'après, je passe 100, 200, quelques milliers de personnes, t'arrêtes. T'as plus besoin de le faire. Et tu veux juste assurer ta qualité de service, quoi.
Donc là, du coup, cette agence où t'as surtout appris le sales, t'avais ouais. appris un peu le produit, du coup, dans la première expérience.
Ouais, du coup, c'était sales, et avant-vente un peu tech aussi, hein. T'es obligé de rentrer dedans, faire les propales un peu tech et tout. Donc,
t'as mis combien de temps avant de devenir bon en vente?
Je rentre là-dedans assez vite aussi dans la tech. Je sais pas si je l'ai été un moment, mais.
Comment tu t'es formé? Comment en fait tu te remettais en question? Toi, t'étais le seul vendeur de la boîte?
Non, il y avait plusieurs. Enfin, ouais, au début, oui. Ensuite, on était 2-3.
Et est-ce que tu allais voir d'autres gens dans ton réseau qui vendaient aussi ce genre de prestations pour avoir un feedback de comment tu présentais le truc, de comment eux ils faisaient?
Ouais, c'est ça. C'était un mix des deux. Là, on était très. Encore une fois, là, on est assez entouré de gens dans ce domaine-là. Donc, on pouvait un peu benchmarker, voir comment les gens faisaient. Et puis l'autre, c'était juste à l'expérience, quoi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, quand tu t'es pris 10 râteaux en faisant ça d'une manière, tu finis vite par dire, bah, en fait, faut peut-être que je fasse autrement. Et empiriquement, tu changes un peu ton discours. Un jour, ça marche mieux. Tu dis, tiens, peut-être que je tiens un truc. Et petit à petit, tu raffines un peu ta méthode. Et après, on a fait des trucs... plus structuré, mais ça, c'était quand la boîte a été rachetée. On en reparlera après, peut-être. On avait des équipes vraiment dédiées d'inside sales qui faisaient que du cold calling toute la journée. D'accord. Donc là, c'était professionnalisé, mais pas à cette époque-là.
Très bien. Donc là, tu la montes à 30, la boîte, et Capgemini arrive et te disent « Salut à Laurent,
on pas tout à fait comme ça. Là, à ce moment-là, on commence à se dire ce que je décrivais. On aimerait bien monter sur les plus gros projets, des trucs à quelques dizaines de millions que les boîtes vont donner. Et systématiquement, ces trucs-là, on les perd, les appels d'offres, parce que pas assez de références, pas assez gros, parce que le DSI, si le projet foire à 10 millions, il préfère avoir pris un grand nom, comme ça, il a les fesses au chaud. Ouais. Et donc, c'est galère. Et donc, on commence à se dire pas du tout on veut vendre, on se dit on aimerait bien avoir des partenariats avec quelques grands groupes et faire des réponses en commun. On a des assets, on est bon, on est expert sur certains sujets, eux ils le sont pas forcément, en plus à l'époque on est en Suisse, les grands groupes sont assez peu présents là-bas, ils ont des petites équipes, donc voilà, on commence à discuter avec Capgemini mais pas que, et on se dit est-ce qu'on peut faire des réponses ensemble, et ça se fait, donc on commence pendant 6 mois à faire des réponses à appels d'offres avec différentes boîtes, avec Thales, avec Capgemini, bon voilà, et il se trouve qu'avec Capgemini ça commence à assez bien se passer, quand tu fais des réponses à appels d'offres, ben, tu bosses des semaines, des nuits entières avec des équipes, on voit que ça fit plutôt bien. Et un jour, on se dit, nous, plutôt, tiens, on va leur demander s'ils ne veulent pas foutre un peu au capital, rentrer au capital de la boîte et nous aider à développer le truc. Et les gars nous disent, nous, on ne fait pas ça, on rachète les boîtes ou rien. Bon, et ça s'arrête là. Et après, eux nous disent, mais ça nous intéresse du coup de discuter d'un rachat de votre boîte, quoi.
Cool. Et là, tu t'es mis avec un banquier. Et
là, on se dit, bah ok, why not? Enfin, on va voir, regardons. C'est vrai qu'on trouvait qu'on était arrivé au bout de ce qu'on arrivait facilement à faire grandir. On devait manquer aussi probablement d'expérience pour amener une boîte au niveau d'après, peut-être à 200, 500, 1000 personnes. On ne savait pas trop comment le faire. Ça nous branchait moins sûrement aussi. On aime bien le début plutôt que la... Voilà. Et donc, ça nous paraît cohérent, on décide de le faire.
Ok, donc là, donc tu vends ça. Ouais. Tu dirais que c'est quoi le plus grand enseignement de cette expérience-là ?
Celle-ci, je pense que c'est vraiment de voir à quel point c'est le taf qui fait le, enfin ouais, c'est vraiment de l'exécution et de c'est un truc très opérationnel quoi. Donc beaucoup de sueur quoi, qui fait que tu montes un business relativement vite, qui fonctionne, qui est racheté. Voilà, parce que ça avait plein de, c'était un boulot très terre à terre, mais au bon sens du terme. Donc j'ai appris ça quoi. J'ai appris que tu pouvais faire de l'argent, faire une réussite avec purement de la bonne exécution. Très concurrentiel, on n'avait rien de plus que les autres. Franchement, on l'a juste bien fait.
Le marché
on a bien
était
taffé,
gros,
et voilà,
un petit
c'est
pourcentage
tout,
et voilà. Ok. Donc ensuite tu vends à Capgemini,
ouais.
Tu bosses un peu avec
eux, 5 ans pour eux,
c'est ça, tu bosses 5 ans pour eux pour développer la boîte. Donc t'as réussi à la développer, à faire
on la fusionne avec les équipes qu'ils avaient sur place. Donc on finit par être une centaine, avec une centaine de personnes. Ça c'était assez nouveau, plein de moyens, une centaine de personnes en Inde pour délivrer des projets à des clients européens, comme je disais, des équipes d'inside sales qui font du calling toute la journée à des clients, assez cool quoi.
Et t'étais heureux de passer de l'autre côté?
Et à ce moment-là, ça va parce que
c'était plus ta boîte.
Parce que c'était encore quasi ma boîte, c'est-à-dire c'était d'accord, très indépendant. Il y avait cette logique là qui continuait, et puis parce que j'avais 25 piges et que je me retrouvais avec vraiment beaucoup de gens à gérer, des grosses équipes, et j'ai appris beaucoup encore là.
Ok. Et donc là t'as un petit chécos,
ouais.
Tu te dis pas je vais me détendre, je vais faire un peu d'immobilier
D'abord,
en parallèle tu restes à fond?
D'abord il y a quand même du earn out, t'as pas tout le chèque tout de suite, donc t'as des contraintes au moins sur 2-3 ans. Et puis le truc me tient suffisamment, donc je développe ce truc là pendant un bon moment, et ça me tient. La dernière année par exemple, ou année et demie, je passe vraiment genre 20% de mon temps en Inde, enfin je fais plein de trucs intéressants, okay, assez proche de l'entrepreneuriat quoi, donc ça va.
Et donc là quand est-ce que tu décides d'arrêter?
Arrive une période où quand même ça a fini par me redémanger de faire quelque chose, une période aussi où même la structure qu'on a créée en Suisse, ça devient plutôt de l'optimisation à 1 ou 2% de marge que vraiment de la croissance ou de la création de nouvelles activités. Et donc je me dis, je remonterai bien un truc, pas d'idée, pas d'associé, rien. Donc je me retrouve à bosser dans un corporate VC à ce moment-là
chez Nokia,
voilà, enfin Bell Labs qui est devenu Nokia, parce que je me dis au moins ça va me remettre plus proche de l'entrepreneuriat, je vais bosser sur des nouvelles idées, mon cerveau va se remettre dans ce mode-là, et puis on verra bien quoi.
Donc là t'arrives chez Bell Labs, tu fais pas long feu, hein.
Voilà, non, un an, parce que je retrouve une idée. Okay. Mais donc à ce moment-là, ouais, je bosse sur deux choses. Je les aide à intégrer les boîtes dans lesquelles ils ont investi ou racheté, pour qu'ils on ne détruise pas 80% de la valeur quand la boîte est intégrée. Et puis deuxième truc un peu plus cool, qui était aller voir dans les cartons, fouiner dans les cartons de la R&D et voir s'il n'y avait pas des trucs cool qu'on pouvait monter en mode start-up et shipper rapidement.
Très bien.
Voilà, donc ça a eu l'effet que je escomptais, c'est-à-dire que comme je me remets à penser à plein de trucs, je finis par avoir une idée, et donc au bout d'un an, je pars et je remonte une boîte. Ouais.
Donc raconte-nous déjà ta situation à ce moment-là. Donc tu te dis, je vais lancer Wingit. Tu l'as lancé à Paris? Tu l'as lancé en...
Je l'ai lancé à Genève.
Okay.
J'étais de retour à Genève. Mais quelques mois pour bosser un peu sur l'idée et avoir un bout de proto, un bout de proto, on va dire ça. Et après, on est vite parti à New York pour le lancer. Donc, on se dit à cette époque-là que, à l'époque, on veut travailler sur les événements locaux, c'est-à-dire trouver des bons plans en temps réel, grosso modo. Et on se dit, le meilleur endroit pour le faire, c'est une ville où...
Et donc, au moment où tu quittes Bell Labs, t'as quoi comme projet? T'as ça, tu te dis, ah, ça serait bien de faire quelque chose qui promeut les événements locaux.
Ouais, c'est ça. Ça serait bien d'être capable rapidement sur ton mobile de trouver un truc à faire autour de toi maintenant.
On est en quelle année là?
On est, c'est il y a 7 ans, on doit être en 2010, un truc comme ça, 2011.
Tout le monde a son smartphone, tout le monde a ses applications, tout le monde a l'habitude.
C'est le début quand même,
Ok, donc tu te dis, là maintenant tout le monde a le portable et l'extension du bras. Il faut permettre d'avoir accès au bon plan en 2 minutes.
Ouais, sur des cas bêtes qu'on a tous eu quoi. Tu finis un resto avec des potes, tu dis qu'est-ce que je peux faire. Je pense que c'est venu aussi parce que j'avais changé de ville à ce moment-là. J'étais à Bruxelles, nouvelle ville, voilà. Et le truc devient assez évident. en se disant je devrais être capable de savoir ce qui se passe autour de moi, quoi.
Donc tu quittes Bell Labs.
Je quitte Bell Labs
en disant je vais lancer ça, donc ouais. Tu vas à Genève faire un proto. Financièrement t'as rien, t'es sur tes économies.
Bah ouais, mais ça va, tu vois, du coup il y a eu l'époque Capgemini avant, je suis bien, quoi.
Ok, est-ce que tu te donnes un horizon temporel, est-ce que tu te dis ok, si dans un an j'ai rien, je m'arrête, ou si dans deux ans j'ai pas une boîte avec cinq personnes, je m'arrête. Comment est-ce que toi, du coup, avec cette situation confortable, tu te places quand même des points étapes pour te dire là je fais de la merde ou là c'est bien?
Pas trop, je crois. Je me suis pas trop fixé de deadline, mais je voulais quasiment à chaque fois aller le plus vite possible, quoi. Donc et avoir des choses qui me pouvaient donner des pistes, l'idée que ça valait le coup de continuer. Donc en gros, on est à la grande époque des business d'audience, tu vois, où tu es capable de vendre à toi-même et à des VC, je vais créer une communauté de l'audience et puis on verra après pour la monétisation. Donc je me dis ça, quoi. Je me dis, on va voir, on va créer un truc, on va voir si ça prend, si des gens l'utilisent, et je me poserai les autres questions après, quoi.
D'accord.
En gros. Donc là, on part...
Tu dis « on », mais t'es tout seul dans la boîte.
Ouais, alors je dis « on » parce que du coup, je prends deux stagiaires à ce moment-là.
Sur fonds propres, encore une fois.
Ouais, alors sur fonds propres, avant ça, je fais l'étude un peu moi-même du sujet. Et ensuite, je développe un petit truc avec des ex-potes de Capgemini en Inde.
Okay.
Donc, je paye des mecs en Inde, voilà, de ma poche. Et on développe un petit truc. Et là, je prends deux gars jeunes, des stagiaires. Un, c'est mon cousin et l'autre, c'est un pote de mon cousin.
Mais du coup, comment tu sais qu'il y a un besoin côté marché? Tu sais pas? T'as cette intuition de toi-même?
Ouais, c'est ça. Alors, rien de plus que mon propre cas, parler avec quelques personnes autour de moi, tu vois,
des
potes. Du coup,
les mêmes que toi.
Ouais, c'est ça, une dizaine, quinzaine, et tout le monde dit, ouais, grave, carrément, effectivement, ce truc-là manque, quoi. Bon, voilà. Et je fais pas beaucoup plus que ça, ouais. Et je pars avec une conviction comme ça, et je me dis, allons-y, on verra. Et donc, ouais, voilà, on fait nos valises à trois, là, et on se barre à New York. On prend un appart, on vit tous dedans.
Rêve américain.
Ouais, et on se dit, et on déchante assez vite parce que c'est une ville dure, quoi, vraiment.
Ça coûte cher, ouais.
Ça coûte cher, c'est dur, c'est vraiment. Et on arrive dans un truc qui est quand même une assez grosse galère. On n'a par contre pas de thunes du tout pour faire des grosses campagnes marketing, pour faire de l'acquise. On n'a pas du tout de budget pour ça. On a juste de quoi se loger et développer ce qui avait été une première appli mobile.
Mais du coup, tu voulais juste lancer ton app là-bas. À quoi ça te servait d'être à New York?
Ouais, alors ça s'est révélé du coup être relativement une bonne idée après. Mais ce qu'on avait en tête, on s'est dit, un, c'est là où on voit le meilleur marché. C'était d'abord ça. On s'est dit, c'est là qu'il y a le plus de trucs. C'est une des villes les plus dynamiques au monde. S'il y a un endroit où il faut le faire, c'est bien là. Et deux, donc c'était surtout ça la raison. Et la deuxième, c'était de se dire, si on a réussi à le faire marcher là-bas, ça serait une sacrée preuve pour n'importe qui, pour nous, pour des VC, pour voilà, ça en termes de POC, ça aura un peu plus de poids que si on l'avait fait à Lyon, quoi.
D'accord.
Voilà.
Donc là, t'as ton app qui existe, mais t'as pas beaucoup de budget marketing.
Ouais.
Comment tu fais pour
voilà,
avoir des
relais?
Voilà,
donc on débarque là-bas et la réalité du truc, c'est que très vite, on va avoir un imprimeur, on print, je ne sais plus, 10 000 autocollants avec notre logo, une baseline dessus et puis le logo de l'App Store.
C'était quoi la baseline?
Je ne sais plus à cette époque-là. Et on passe nos nuits entières, littéralement, à en coller partout dans New York.
C'est illégal de faire ça.
Voilà, on se fait choper par les flics,
oh là
exactement,
là là.
Dans Brooklyn. Voilà, enfin bref, les Qu'est-ce mecs nous suivaient.
Ils t'ont dit quoi, les
Ils nous ont laissé partir, mais ils rigolent pas trop.
Parce que si tu dégages, tu reviens plus jamais.
Ouais, c'est ça. Donc, on se planque, on fait ça de nuit, entre minuit et 4-5 heures du matin. Voilà, on en fout partout. C'était ça notre réalité. Et après la journée,
t'as eu cette idée? Tu t'es dit comme ça, comment est-ce que je vais faire? Je distribue des flyers. Ah non, encore mieux, on va coller des stickers.
Ouais, je crois que c'était la ville voulait ça un peu. T'en as pas mal. C'est un truc qui se fait. On a fait les flyers aussi. Hein, on faisait les sorties des écoles. Voilà.
Ta cible, c'était qui? Est-ce que t'avais défini bien la cible ou pas?
Ouais, ça, on l'avait à peu près. Donc c'était en gros 18-25 ans qui sort et qui cherche des trucs à faire.
Et le produit concrètement, c'est toi qui essaye de trouver de la supply, donc de toutes les soirées, tous les bars, etc., que tu mets à la main? C'est les clubs qui le font
à
eux-mêmes.
L'époque, on se dit ça va être du user generated content, donc c'est les gens eux-mêmes qui vont le faire. Évidemment, ça marche pas, enfin, ou très peu.
Quand
et
t'es
donc,
trop petit, ils s'en foutent.
Voilà.
Ouais.
Donc, c'était ça, nos journées, c'était à la fois de produire du contenu nous-mêmes. Et la deuxième partie, c'était d'aller voir des bars et des lieux de concerts pour qu'ils en fassent la promotion, quoi.
D'accord.
Voilà. Donc et les nuits pour coller les stickers, quoi.
Ok.
Donc ça, c'est la réalité du truc pendant 6 mois. On se marre bien, mais on galère quand même, vraiment.
Et là, t'as pas de business model.
Et là, j'ai pas du tout de business model. J'y pense même pas.
D'accord.
Je me dis, voilà, faut de l'audience et après on verra. Et malgré tout, après pas mal de trucs qui marchent pas, pareil, on se lance dans un truc, ça peut être intéressant d'en parler. À un moment, on se dit, je sais pas comment ce truc-là est venu. À posteriori, on se dit, c'était d'une complexité, pourquoi on a voulu le faire, mais on se lance dans un truc, l'appli avait un moteur de réalité augmentée dedans, et quand tu scannais nos stickers qu'on avait mis partout, t'avais un peu d'animation, puis tu déloquais du contenu un peu plus premium. Et ça, on se dit super, ça va cartonner, voilà. Et je pense que c'est le pire fail de feature de ma vie. C'est-à-dire que je crois même pas qu'il y ait une personne qui ait fait l'expérience jusqu'au bout
trop
de ce truc-là.
Compliqué.
Mais absurdement compliqué. C'est-à-dire, faut que tu comprennes que tu vas aller scanner truc. Enfin, même aujourd'hui, on connaît mieux ces techs-là. Déjà, personne le ferait, mais t'imagines à l'époque. C'est-à-dire, le truc était à peine sorti.
Le QR code, c'est ma hantise.
Bon, voilà. Donc, mais l'un dans l'autre, on commence à faire un truc qui marche. On monte jusqu'à 10, 15 000 user à New York avec plutôt des bons ratios quoi en termes d'usage et de réengagement, des cohortes pas mal. Et à ce moment-là, on a juste une problématique de permis, de visa, quoi. On arrive au bout de ce qu'on peut tirer là-bas. Et donc on rentre. En plus, il y a des facteurs perso.
Tu rentres au bout de combien de temps et t'as combien de users?
On passe un petit peu moins d'un an avec des allers-retours, mais on passe un petit peu moins d'un an, 8-9 mois, je dirais.
Toujours à 3.
Ouais,
avec tes deux stagiaires qui ont fait un an de stage à New York.
Exactement, donc c'était essentiellement moi au final et voilà, et on rentre
comment ils vivent à New York les stagiaires avec leur salaire de stagiaire?
Ouais, bah en fait ils sont logés, moi c'est ça que je leur propose, okay. Qui est le principal coût à New York, et après ils ont la chance d'avoir un peu d'argent, voilà.
Okay. Vous viviez où?
Et on vivait à Hell's Kitchen. Donc,
beau quartier, c'est sympa.
Ouais, c'était okay. pas mal.
Moi, j'avais fait un stage de 2 mois, je vivais à Chinatown, vraiment dans la Chine.
Ouais,
ça sentait les poubelles, le poisson, etc. C'est magnifique.
Mais on a plein d'histoires. Hein. On s'est fait jeter de nos appartements. Enfin, on a eu pas mal de.
Ils rigolent pas là-bas avec ça.
Ouais, c'est ça. Donc, on galère bien, mais on fait le truc. Et ouais, donc quand on n'a plus de visa, on rentre. Et à ce moment-là, je me dis, bon, ouais, c'est ça, 10-12 000 users. Des cohortes pas dégueulasses, mais effectivement vraiment zéro
en
termes de CA.
Qu'est-ce que tu entends par cohorte?
Cohorte, donc l'usage de l'appli après X jours, après 7 jours, après 30 jours, voilà. Donc on a des...
Et une bonne rétention, quoi.
Ouais, ça va. Pas mal de gens commencent à générer du contenu eux-mêmes. Donc ça va, on sent le truc qui, sur la proposition de valeur initiale...
Il y a des réseaux sociaux à l'époque
fonctionnent.
Actifs
ouais. Je fais les tout premiers tests des ads Facebook, par exemple.
D'accord.
Vraiment, c'est le tout début.
Ça existait déjà, Facebook.
Ouais,
en tout début,
bêta, je mets 1000 balles, on essaye un peu, on fait ça, ouais. C'était les tout petits pavés, c'était pas du tout les formats actuels, c'était des tout petits rectangles qui arrivaient sur le côté, là, de ton flux. Mais on en fait un peu, ouais. Donc ouais, avec ça, on se dit, bon, on va voir, on va aller pitcher des investisseurs et puis on verra bien. Et là, on galère pas mal hein, quand même, ça dure plusieurs mois.
Donc tu rentres,
ouais.
Donc t'es depuis Paris?
Ouais, non, je rentre en Suisse encore
en Suisse,
à ce moment-là. Donc
t'essayes de lever
ma base arrière.
En Suisse?
J'essaye de lever des fonds en Suisse, impossible, je le vois bien, c'est pas du tout le mindset, ce genre de projet. Et donc j'essaye en France.
Donc, donc tu vas à Paris pour rencontrer des VC, pour leur expliquer que t'as une appli à New York qui marche un peu.
Ouais, voilà.
Ils doivent te répondre, mais va chercher des fonds à New York. Non.
Ouais, c'est ça. Alors effectivement, on me dit, pourquoi t'es rentré? Si ça marche bien en plus là-bas, c'est bien mieux. Je dis ouais, juste j'ai des contraintes familiales, puis en plus j'avais plus de visa, ça coûte une blinde de rester là-bas, compliqué quoi. Donc maintenant j'essaye d'ici, mais en même temps, et donc il y a ça, mais d'un autre côté, comment ça a fonctionné ce qu'on s'était dit? C'est que ça a un peu de poids auprès des VC. D'abord, il y avait le côté, putain, les mecs, ils ont quand même eu les couilles de se barrer comme ça avec une valise et d'essayer. Ça a un peu, ça fait écho, quoi. Ils se disent, les mecs derrière ça, enfin, le mec à l'époque, mais bon, c'est un peu, ça révèle un comportement, quoi. Donc, ça marche. Et puis, le côté très concurrentiel de cette ville-là, et malgré tout, avoir l'engagement qu'on a, bon, ça commence à.
Et est-ce voilà, que ton track record d'entrepreneur, donc d'avoir quand même réussi à vendre une boîte à Capgemini, de la développer, etc., ça te rend.
Il me sert et il me dessert en même temps. C'est-à-dire, les mecs se disent, bon, il a déjà fait le truc, mais tous les VC me disent, mais putain, pourquoi tu fais pas un truc B2B c'est ça que tu sais faire, quoi. Ouais. Pourquoi tu t'attaques à du consumer, une app, c'est pas ton truc Donc, ça me sert, oui et non, quoi.
En sachant que, moi, je suis assez d'accord avec ça, c'est qu'il y a des qualités très différentes entre un business B2B et business B2C. Il y en a un où tu dois être une brute en sales, l'autre, tu dois être une brute en marketing, ce qui est très
marketing
différent.
Marketing et produit, ouais, carrément.
Et toi, tu te dis, t'avais conscience de ça, t'avais conscience que c'était des qualités très différentes et que du coup, t'aurais un peu à changer ta nature ou en tout cas à travailler des skills que t'avais pas encore forcément.
Ouais.
Et ça t'excitait, ça.
C'est sûr, mais et ça, c'est peut-être du. Enfin, c'était peut-être un peu de fanfaronnade, quoi, où je me suis dit, je vais gérer, on verra bien, quoi. Mais c'est vrai que j'ai vite vu que j'avais pas, enfin, qu'il fallait acquérir des trucs en termes produits surtout. Comment tu crées un produit, comment tu crées une app qui marche, qui est convertie, qui retient les gens, c'était un truc, on n'était pas bon au début, quoi.
Clairement. Donc là, t'essayes de lever des fonds en sachant que t'as 0€ rentrant.
Ouais.
Donc, en fait, à ce moment-là, t'es en situation de.
Et ça fait un an et demi, ça commence à être chaud, quoi.
Ouais, tu te dis, oulala.
Voilà. Et franchement, on arrive à un point où. Donc, je me prends que des noms. Des dizaines et des dizaines de noms de bâches.
Est-ce qu'ils justifient quand ils te disent non?
Et ils justifient soit en me disant ça, c'est-à-dire, c'est pas ton domaine, va faire ce que tu savais bien faire, là. Ou ils me disent, c'est quand même peu en traction, 10 000 users, avance et puis reviens nous voir, le classique, quoi. Et donc, j'en arrive à un point assez proche d'arrêter, franchement. Je pense à 2-3 semaines d'arrêter. Et j'avais un type qui m'aidait pour la levée de fonds. Et un jour, il me dit, tiens, je t'ai chopé un rendez-vous là chez un fonds, vas-y, quoi. Et je regarde la typologie du fonds, je regarde ce qu'ils font, je fais non mais impossible. Et comme j'en ai déjà vu des dizaines et des dizaines et que j'ai que des noms, à la base je lui dis non. Donc je lui fais non, je vais pas aller voir, ça sert à rien, jamais ces types-là foutront un ticket là-dedans, c'est bon, vas-y, c'est pas la peine et j'en ai marre en plus, voilà. Et on était vraiment pas loin d'arrêter. Et après lui avoir dit ça, je me dis t'es quand même con, au final t'en as fait tellement, vas-y quoi. Je vais les voir et au final ces types-là foutent un ticket.
Combien ?
Ils mettent un ticket de 200K, mais c'est un gros fonds, c'est un vrai fonds d'investissement et du coup ça me permet de facilement fédérer d'autres après.
Combien de temps ça a pris ce process ?
Ça a pris je pense 6 à 8 mois quoi.
D'accord.
Ouais.
Et entre le moment où tu as rencontré le fonds et le moment où ils ont dit on investit, c'est passé combien de temps ?
Après ça c'était assez vite quoi, je pense 2-3 mois.
Okay. Mais... Et pourquoi ils ont investi dans toi ? Ils croyaient en toi ?
Bah, c'est exactement ce que tu as dit, c'est ça. Ils ont mis de l'argent dans moi plus que dans la boîte quoi.
D'accord.
Alors après il y avait d'autres choses, un peu de chance, c'est-à-dire qu'ils avaient pas encore, ils avaient rien en portefeuille sur le mobile et ils se rendaient bien compte qu'il fallait avoir des boîtes sur le mobile en portefeuille. Donc j'arrivais au bon moment là-dessus, ça et moi. Et ils se disent, OK, on veut être sur le mobile, le type est bon, vas-y.
Chance relative, hein, tu parles de chance, mais tu l'as vraiment provoqué.
Ouais,
t'as dit 50 fonds qui t'ont dit non, et c'est le 51e qui t'a dit oui.
Ouais, ouais, exactement. Donc vraiment, persévérance, j'y croyais vraiment plus. Et à partir du moment où eux mettent un ticket, ça, c'est assez classique, ça déclenche le reste. Il y a d'autres qui disent, bon, si le fonds a mis, je veux bien suivre.
Parce que le fonds avait une réputation.
Ouais, parce que c'était un vrai fonds d'invest.
Comment il s'appelait
ça ? C'est Créaxi maintenant, c'est la fusion de. Voilà. Et de. Ouais, je sais même plus, mais c'est la fusion de deux fonds, mais c'est Créaxi aujourd'hui. Et donc après, ça donne confiance, ils font la due deal qui va bien, et donc on fédère derrière des family office, des BA, et on fait finalement avec le recul un gros seed, franchement, pour l'époque. Maintenant, ça a augmenté un peu, mais on fait finalement un seed de, je sais plus, 800 ou 900K
okay. euros.
Voilà. Donc là, on est bien, quoi.
Donc 8-9 mois. Donc là, ta boîte, elle a 1 an et 9 mois, du coup ?
Ouais, elle a un peu plus, en fait.
Et il s'est passé quoi ? Parce que entre le début du process et la fin du process, tu dois aussi développer ta boîte, alors que tu es tout seul et que ça prend un temps fou de lever des
fonds. Là, il ne se passe plus grand-chose. Ouais.
D'accord.
Il ne se passe plus grand-chose. Franchement, on vivote avec le peu de communauté qu'on a, les quelques dizaines de milliers d'users, mais ça tombe assez vite. Ouais. Okay. Ça vivote à ce moment-là jusqu'à ce qu'on ait l'argent et qu'on redémarre vraiment quelque chose d'un peu plus sérieux. Quoi.
Donc là, tu lèves ces 900 000 euros.
Ouais.
Tu fais quoi ? T'embauches une équipe ?
Et là,
tu vas
voilà,
mettre des locaux à New York ? Tu bosses où ?
Ouais, non, là, du coup, on monte l'équipe à Paris. du coup, et on se fait plus sérieux, donc un CTO, quelqu'un de responsable de l'acquise, marketing acquise, voilà.
Supply demand ou juste la demand?
Non, ouais, juste la demand, parce que supply, on se rend compte dès ce moment-là, donc c'est ce qui avait été vendu aussi au VC, c'est de la création de contenu nous-mêmes, soit en éditorial, soit généré par les users, ça scale pas, c'est impossible. Et donc, on avait commencé à bosser sur une tech qui allait chercher le contenu de façon automatisée sur les réseaux sociaux. Donc, on avait un algo qui allait écouter ce que les gens partageaient comme bon plan sur les réseaux sociaux. On les repérait, on les cross-checkait avec les inventaires des billetteries et puis on faisait nos propres recos derrière ça.
D'accord.
Donc ça marchait de
donc
façon...
Donc tout automatisé.
Ouais, quasiment. Donc quand on est allé voir les VC, c'est ça qui a fait aussi, hein, c'est que on montrait une
aujourd'hui,
tech.
Aujourd'hui, il y a Dojo qui fait ça aussi, non, à l'époque?
Et
je sais pas si ça existe encore,
Dojo. Dojo, ouais, alors petit à petit,
on est Dojo,
tous, ouais. Tous morts là-dessus, mais ouais. Je crois qu'ils faisaient beaucoup d'éditorial quand même.
Ok.
C'était très quali, mais il faisait beaucoup d'édito. Ouais, donc voilà, donc c'est surtout, ça devient un projet tech en fait. Donc on lève pour monter une équipe tech et puis pour faire de la grosse acquise d'un point de vue app, quoi.
Du download. Du coup, sur les 900 000 que tu lèves, il y en a combien pour l'équipe, combien pour le budget marketing?
Il devait y avoir de mémoire, je pense qu'on a bien dû mettre 300, 400K sur de l'acquise. Okay. Et le reste sur l'équipe.
Sur les devs pour faire le produit.
Ouais, c'est ça. Et du coup, là, évidemment, on passe la vitesse supérieure. On lance quelques autres villes. Donc, du coup, comme on est à Paris, on lance Paris. Je crois qu'on lance Tel Aviv aussi, parce que ça bouge pas mal. Et c'est une ville plus petite et ça nous plaît bien d'essayer une configuration un peu différente. Donc, on se retrouve assez vite avec 3-4 villes et on passe assez vite les 100 000 users. Voilà, c'est le milestone dont je me rappelle. Et c'est assez
facilement, sans genre tu lances les chevaux. C'était quoi ta première campagne marketing? Comment est-ce que tu savais à Tel Aviv, par exemple, quand tu ouvres cette ville, quels sont les clubs qui correspondent à quel type de personnes?
C'était
les touristes.
Ouais. L'acquise, c'était très. D'abord, on a tout internalisé, ce qui est pas le cas de pas mal de boîtes. Donc toutes les campagnes, c'est nous qui les faisions. Donc on créait les assets, on créait les textes, on gérait tout nous-mêmes. Et donc c'est comme ça qu'on a appris, quoi. Donc en gros, on commençait avec des petits budgets, on testait plein de configs différentes, plein de baseline de messages différents, et puis on voyait ce qui fonctionnait. Okay. On est monté jusqu'à, pour donner une idée, on avait 600 campagnes qui tournaient en parallèle avec des budgets de 10-15 euros, pas plus, que dès qu'on mettait plus sur une campagne, les coûts d'acquisition montaient. Enfin voilà, ça donne l'idée. Okay. Une idée de ce qu'on faisait. Ouais, c'était le gros de notre taf, quoi. Outre la tech, c'était bien comprendre tout ça. C'était beaucoup d'itérations, quoi. Beaucoup de taf, beaucoup d'itérations.
Donc là, tu arrives à avoir 100 000 users,
ouais.
Mais toujours pas de business model.
Toujours pas de business model. Alors, on a des idées de business model, parce qu'à 100 000 users et voilà, un peu de rétention, on commence à se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a une version premium de l'app? Est-ce qu'il y a du contenu sponsorisé? C'est ça qui vient le plus vite. Hein. On se dit, voilà, il y a des gens qui vont payer pour mettre en avant leurs événements à l'intérieur de cette app. Et on essaye un peu, mais en gros, des modèles publicitaires avec 100 000 users, ça tourne pas, quoi. Donc, ça tourne à des dizaines de millions d'users. Avant ça, ça n'a même aucun intérêt pour les annonceurs. Donc, c'est ça le modèle qu'on a. On en a un en tête, c'est celui-là, à ce moment-là. Et il y a d'autres modèles qui fonctionnent. C'est le moment où Facebook commence à lancer des events sponsorisés et des posts sponsorisés. Ça date un peu, mais voilà. Donc on se dit c'est un format qui marche bien, ça sera ça. Mais avant ça, il faut qu'on ait non pas 100 000 mais 1 million, 2 millions d'users, quoi. Donc on repart en levée de fonds à ce moment-là avec nos 100K users et on dit on veut lever maintenant, je crois que c'était 2 millions ou 2 millions et demi, et on veut continuer. Entre-temps, on avait développé une tech qui scalait vraiment bien et du coup on s'était retrouvé à avoir une vingtaine, une trentaine de villes. Et on veut lever 2 millions et demi sur le projet de lancer une centaine de villes dans une quinzaine de pays et vraiment scaler le truc, quoi. Voilà. Pareil, là, faut pas croire, on repart dans une galère quasi identique à celle d'avant.
La deuxième levée.
On passe 6 mois, 8 mois, tout le monde nous dit non, alors qu'on pense que on est arrivé à faire un truc bien. Ah ouais, mais c'est plus du tout le même game, parce que là, tu te présentes plutôt sur un tu dois afficher des métriques plutôt de série A. Donc les mecs nous disent 2,5 millions, vous faites zéro de revenus, vous plaisantez. Enfin bon, voilà, ça devient compliqué. En plus, ça se tend. On avance, là, on se rapproche de 2015. De moins en moins de fonds sont capables de prendre le pari de l'audience juste.
Okay.
Donc les gens veulent du revenu.
Pourquoi
et tout
parce
ça.
Qu'ils ont vu Twitter ne
ouais,
pas réussir.
Ils prennent des bouillons dans tous les sens, okay. quoi, en gros. Et donc, on arrive un peu en fin de vague, nous, et ils ont plein de modèles comme ça qui n'ont pas marché, donc ils ne veulent plus, quoi. Ils ferment les vannes un peu. Mais bon, on continue, voilà. Pareil, on s'accroche, on voit plein de gens et on finit par boucler notre levée sur cette ambition-là, quoi.
Auprès de qui, là ? C'est le même, ton fonds remet
Voilà, tous nos historiques remettent et on fait rentrer un gros family office, en plus.
D'accord.
Voilà, et...
Tu doutes à ce moment-là ? Tu te dis, putain, mais si tout le monde me dit non, c'est peut-être qu'il est pourri, mon projet.
Ouais.
C'est vrai que Twitter n'arrive pas à se monétiser.
Ouais, c'est
peut-être
ça.
Peut-être qu'en fait, ça ne marchera pas, quoi.
On doute quand même pas mal, d'autant plus que depuis le début, on galère. Donc, voilà, pour refaire l'histoire, on était un média au début. Ensuite, on fait du contenu généré par les users. Ensuite, on développe une tech. Ensuite... arrive peu après encore un autre changement, on bosse en B2B2C, donc on fournit notre contenu à des publisher app, donc on commence à bosser avec des médias et on leur fournit du contenu. Donc ouais, on doute, mais si tu veux, quand t'as fait tout ça et que malgré tout tu vois derrière, ce qui a fait qu'on continuait, c'est qu'on voyait de l'usage. On voyait des gens qui utilisaient ce truc-là et qui voyaient une value. Donc
et
voilà.
T'es conseiller, t'as des mentors qui t'aident là-dessus sur du B2C parce que toi, c'est ton premier business B2C. Tu gères beaucoup d'argent du coup que t'as réussi à lever. Comment est-ce que tu. Ça va être difficile de prendre ces décisions, tu dois
ouais,
douter.
Ouais, en effet.
T'as et des gens fait... à qui tu peux te confier, qui peuvent te conseiller.
Pas trop, et ça fait partie des learnings hein, de ce truc-là. Pas trop. Nos fonds étaient pas d'investissement, étaient pas, c'était pas leur domaine non plus. Donc tu vois, si t'as un fonds spécialiste qui a fait que du B2C, qui a eu je sais pas combien d'apps en portefeuille, bah voilà, il te conseille assez facilement, ce qui n'était pas le cas de nos fonds. Du coup, pas trop, non. Pas trop. L'écosystème parisien qu'on connaît très bien maintenant, à l'époque, c'était pas le cas. Donc ouais, non, on se débrouille, quoi. Donc on fait sûrement pas mal d'erreurs qu'on aurait pu éviter avec des gens un peu plus calés, quoi.
Okay.
C'est sûr.
Et du coup, ça se finit comment, cette histoire ?
Et du coup, donc ouais, on fait cette levée, deuxième, finalement, on y arrive. On finit par trouver un modèle d'affaires, là, du coup. Enfin, d'abord, on scale le truc beaucoup. Donc, on finit par être dans 200 villes, 15 pays. On se distribue en B2B2C. On signe des apps comme RTL. On est dans le menu en deuxième ou troisième item du menu de l'app RTL. On en a d'autres, Condé Nast et plusieurs autres. Et on monte à 10 millions d'users mensuels quand même.
Okay.
Tu vois, voilà, on prend une autre quand même dimension. Et là, on commence à trouver le modèle. Donc, les publisher apps nous payent parfois. Et quand elles ne nous payent pas, on fait du contenu sponsorisé avec des annonceurs, mais là, avec 10 millions d'users.
D'accord.
Donc là, ça fonctionne. On fait des trucs avec la Warner. Donc, on commence à avoir des gros annonceurs. Et on monte assez facilement ce modèle quand on le trouve. En quelques mois, on monte à 50K mensuels. On fait pas mal de campagnes et ça fonctionne plutôt bien. Donc là, on est content. On se dit, bah ça y est, maintenant on a le modèle. On a des métriques qui sont plutôt bons. C'est parti, il faut qu'on relève par contre. Mais ça va être beaucoup plus facile qu'avant. Mmh. Et ça finit par être plus compliqué qu'avant. Parce que, en gros.
C'est jamais facile.
Bah, c'est jamais facile, mais là, c'est encore plus compliqué. Ce que les fonds nous disent, bah, c'est super. T'as des super métriques post-seed, mais t'es post-série A, mec. Donc, en fait, c'est mort, quoi. T'es trop.
Toujours un temps de retard.
T'es trop dilué. Effectivement, à cette époque-là, j'ai plus que 30% de ma boîte. Comment tu veux qu'on se projette ? Faudrait encore 2-3 tours. Il ne va plus rien te rester. 5-6 ans, tu as cramé 5 millions. Ta boîte aurait 2 ans et tu serais post-seed et tu nous montres ça, ça serait nickel et on trouve ça bien. Mais too late. Quoi. Enfin, une équation économique, et c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a pas que tes résultats, il y a un contexte, il y a une équation qui fait à ce moment-là que personne n'est capable de mettre là-dedans. On a des discussions de rachat avec quelques boîtes à ce moment-là, certaines qui vont assez loin. Qui arrive à pas à se faire. Donc là, qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu discutes des espèces d'opérations de bridge, de sauvetage avec, avec tes VC historiques qu'on fait un peu. Et puis on essaye de vendre la boîte et puis ça se fait pas.
Ok.
Voilà. Et on finit par fermer.
Tu finis par fermer.
Ouais. Mais toi, ça dure 6 ans.
Ok. Et du coup, tu as gagné zéro dans l'histoire.
Ah, là, j'ai non seulement j'ai pas gagné, mais j'ai perdu. Ouais. J'ai mis de la thune perso au début.
T'as perdu de l'argent. Comment on se relève de ça? C'est quoi ton analyse de cette expérience-là? T'aurais dû arrêter avant
Maintenant, ça fait un peu de temps, mais sur le coup, elle a été un peu dure, celle-là, à encaisser, physiquement, moralement et tout. Mais avec un peu de recul, c'est une super expérience. En 6 ans, on est passé par tous les steps que tu peux traverser dans une startup. Plein de pivots, des levées de fonds, on est monté jusqu'à 25 personnes, puis on est repassé à 12, puis on est remonté un peu. Puis, enfin, vraiment, on a connu, je pense, tout ce qui était quasiment possible de connaître. Donc, c'est ça que j'aurais gagné, quoi, là-dedans. Mmh. Comme tu l'as dit, on était peu, j'étais pas du tout produit, pas très consumer. Du coup, tu sors de là, tu connais bien. Bon, voilà, j'en ai tiré plein d'enseignements qui m'ont servi après, quoi.
Donc après, tu lances Wing It Up, tu lances O-Bike.
Non, alors après, non. Franchement, après ça, après ça, surtout, je me dis, vas-y, je peux plus monter de boîte. Enfin, en tout cas, j'ai plus de jus là. Je vais essayer d'aider d'autres à le faire.
Okay.
Donc, je fais le tour un peu des accélérateurs, des VC, et j'essaye de voir qui je peux aider. Et c'est pas évident, quoi. Il y a pas beaucoup de jobs dispo et cool dans ce monde-là. Donc, ça prend du temps, je trouve rien. Et je suis contacté par des Chinois de O-Bike qui me disent on a monté une boîte il y a un an, on a levé 60 millions, il y a 20 000 vélos dans des containers, là, on veut les envoyer en Europe et on veut lancer 12 pays.
Toi, t'es chaud en consumer.
Est-ce que ça te tente, quoi? Et je me dis, en fait, j'étais pas prêt à ça, mais en fait, ça a l'air fun. Il n'y a pas de régulation à ce moment-là, ça ressemble un
Comment ils te contactent ?
Je crois que c'est via un chasseur, quoi.
D'accord.
Il y a des mecs qui me contactent, ouais. Et je dis, ça a l'air marrant, quoi. Ça me fait penser au VTC. Pas de règles, beaucoup de liens avec le gouvernement à avoir, discuter de ça. Et je dis, allez, on y va, je verrai bien.
On balance.
Donc, je me lance avec eux. Et là, c'est pareil. Faut pas croire. Il y a 60 millions, machin. Mais la réalité, quand je démarre là, c'est que je me retrouve à 5 heures du mat au cul des camions pour descendre des vélos avec des déménageurs. Parce qu'à l'époque, on n'avait même pas de transporteur. Donc, on prend en speed des déménageurs et on fait ça. Et on met nos 1000 premiers vélos dans Paris.
Du coup, c'est toi à la mano qui va placer les premiers vélos.
Ouais, avec quelques mecs, avec des déménageurs et 2-3 Chinois qui étaient là.
Donc, ces petits vélos arc-en-ciel. Que tu places et en parallèle, tu fais de la campagne marketing pour essayer de sensibiliser les gens au fait qu'il y a un nouveau moyen de transport dans Paris.
Ouais, c'est ça. Et on fait. Et alors là, je découvre un truc très nouveau en comparaison de. Mais c'est un bonheur. En comparaison de Wingit, c'est que ce truc-là n'a pas besoin d'acquisition, quoi. Tu dépenses zéro, c'est-à-dire tu mets les vélos et ça marche. Les gens les prennent et il y a beaucoup, beaucoup d'engagement. Après, on peut challenger le modèle, mais en termes d'acquisition, c'est incroyable. C'est-à-dire, il suffit de l'objet fait le marketing lui-même.
Et selon toi, le concurrent de ça, c'est le métro, c'est le VTC, c'est
je pense qu'il n'y en a pas vraiment, en fait. Ouais, du coup, c'est pour ça que ça marche bien. Maintenant, c'est plutôt les trottinettes, mais ça marche bien parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. Donc, c'est de la marche, quoi. Ouais.
Parce que en termes de pricing, c'est cher par rapport à du métro.
Ouais.
Alors que ça prend autant de temps, mais c'est pas cher par rapport à un VTC. Du coup, tu penses que les gens ils réfléchissent comment, ils disent ouais, je vais prendre le vélo
parce que c'est le
taxi,
la convenience. Ouais, vraiment on visait le last mile, mais c'est un peu plus que last mile, quoi. C'est si t'es un peu entre deux stations, c'est un peu loin, tu sais pas trop comment faire, tu prends ce truc là et tu le déposes là où tu t'arrêtes.
Il y avait un moteur, il y avait pas de moteur,
pas de moteur.
Ok, juste un bon.
C'était première génération là. Ouais.
Donc là, tu lances ça, ça commence à marcher.
Ouais, donc là, incroyable. Pareil, pour donner une petite. On a vu l'exemple de Wingit. Je passe 4 ans, je finis par faire 50K mensuels. Et là, je fais 50K mensuels, genre le premier mois, quoi.
D'accord.
Vraiment, on lance le truc. On fait peut-être c'était 30 et ou 40.
T'as une petite histoire un peu croustillante à nous raconter sur ce début d'aventure avec O-Bike. J'imagine qu'il y a eu des trucs.
C'est une galère de. C'est un business de. Un peu pirate, quoi. On fait ça, on n'a aucun droit de le faire, mais rien qui nous l'interdit non plus. C'est un flou complètement. C'est une zone grise. On a eu plein de problèmes de vandalisme, quoi, mais un peu organisé, quoi. Donc, c'est pas juste des gens qui en prenaient pas soin. C'est on met 1000 vélos, on en met 100 dans un nouveau quartier, on se réveille le lendemain, il y en a 98 qui ont les câbles de frein coupés, par exemple.
Pourquoi ?
Je sais pas. Ou qui ont le QR code que tu dois scanner pour déverrouiller le vélo, bombé.
Ça, je vois, ça, je comprends pas les gens.
Et ça, à la limite, tu peux te dire, mais les câbles de frein, c'est même dangereux, enfin, ça devient un truc. Mais on se retrouve avec des commandos comme ça qui nous.
D'accord.
Voilà,
ils ont une mission.
Ouais, c'est ça, en mission.
Empêcher les Parisiens de faire du vélo.
Et à côté, c'est beaucoup de discussions avec la mairie, avec pour voir comment ce truc-là peut s'organiser.
Et donc, ce projet qui est mort très vite, pourquoi il est mort ?
Il est mort de cette... Ils se sont, mais tous, hein, d'ailleurs, ça s'est auto-cramé, quoi. C'est-à-dire qu'on est allé trop vite, trop fort, avec des gens qu'on avait pas, qui n'avaient pas l'expérience de ce type de produit. Et du coup, ça se voit. Enfin, c'est-à-dire la deuxième génération qui est arrivée après, notamment les trottinettes, ça marche beaucoup mieux. Mais fallait un peu éduquer le marché à ça. Nous, on est arrivés tous très vite, très fort, et on a juste cramé nos invests en learnings, quoi. Et une fois qu'on avait un peu appris, c'était trop tard déjà.
Ok, donc là, ça meurt. Poum.
Ouais.
Et du coup, tu te...
Mais alors, juste avant que ça meure, ouais, moi, en fait, je fais pas la fin avec eux. Un petit peu avant que ça meure, on me contacte lié à la période post-Wingit où j'ai fait le tour un peu des accélérateurs, etc. J'ai Numa, l'accélérateur, enfin, qui l'est plus maintenant, mais qui me contacte et qui me dit on a bossé sur le sujet d'un startup studio avec un grand corporate, tu devrais les rencontrer, c'est intéressant. Et là je leur dis non way, je vais jamais bosser pour un corporate. Et ils me disent ouais, mais franchement on a bossé sur le sujet avec eux et c'est très cool, tu devrais les voir. Et comme je les connais bien et que voilà, je leur dis bah ok. Et donc je rencontre les gens d'Air France KLM. Et on discute d'un projet de startup studio très indépendant, un modèle un peu proche d'un eFounders, donc un modèle très entrepreneurial pour un corpo. Et je trouve ça très cool et je décide de le faire avec eux.
Du voilà. Coup, est-ce que pour nos auditeurs, tu peux nous donner un peu ton mode opératoire quelles sont les étapes indispensables pour repérer un bon business, donc toi dans l'univers du travel, pour faire les premiers tests, les timings que tu te donnes, est-ce que tu peux nous donner un peu cette essence.
Ouais, ce qui est cool d'ailleurs, hein, c'est qu'il n'y en a pas vraiment de recette, parce que sinon on serait tous pas là, on serait milliardaires, enfin voilà. Donc il n'y a pas de recette, mais il y a quand même...
Les gens vont se déconnecter là, ils vont arrêter l'épisode. Ouais. Je pensais, je leur ai vendu une recette miracle et là tu gâches tout.
Mais c'est, enfin je veux dire, on discute avec des gens qui viennent dans le studio et qui nous posent ces questions-là en disant bah, je vais arriver, c'est quoi la méthode, les milestones et tout. Et on dit mais attends mec, il n'y en a pas vraiment, on verra bien, ça dépend un peu de ton truc. Mmh. Par contre, on a quelques manières de faire quand même. Donc en gros... on démarre surtout, et ça on le fait nous-mêmes, l'équipe du studio, avant même de chercher des entrepreneurs pour travailler avec nous, c'est d'identifier des opportunités. Donc ça, c'est en gros, on veut trouver, mais de façon assez classique, on veut trouver un vrai pain, un vrai problème sur un gros marché, un marché de plus d'un milliard. Sinon, on regarde pas vraiment.
Comment t'estimes la taille du marché ?
Ouais, beaucoup de data, quoi. Desk research, quoi. Donc tu vas voir.
Par exemple, là, vous avez fait une boîte qui permet de voyager léger pour les familles.
Ouais.
Comment tu sais quelle est la taille du marché ? C'est-à-dire, comment tu sais combien les gens sont prêts à payer pour ne pas prendre leur poussette dans la vie ?
Ouais, alors là, j'avoue qu'on a une super analyste, Leslie, à demeure. Mais en gros, ouais, c'est beaucoup d'analyse, de rapports, de sujets et un peu de créativité financière pour être capable de sortir un chiffre qui est un tant soit peu baqué, quoi, quand même. Mais en effet, ça demande, ce qui est un vrai point, c'est que ça demande du taf. Donc, tu vas effectivement jamais trouver la taille de marché des parents qui voyagent avec une poussette, quoi. Donc, c'est du taf d'analyse, de data pour essayer de le trouver, quoi. Et sinon, tu peux le faire de l'autre côté, mais souvent, tu essayes de croiser les deux. Tu peux le faire plutôt bottom-up, c'est-à-dire, tu essayes de voir combien de gens sont plutôt à partir des ventes que par la taille du marché et essayer de retomber sur tes pattes. Mais. Voilà, donc on cherche ça pour aller identifier des problèmes comme ça. On a des axes aussi maintenant, on a un peu appris. Il y en a trois principales. Une, c'est plutôt de l'analyse de persona. Donc, on regarde des grandes personas comme ça dans le travel. Ça peut être les familles avec enfants, ça peut être les handicapés, ça peut être voilà. Et tu déroules comme ça, tu t'apprends à les connaître et puis tu regardes où sont les pains chez eux. L'autre, c'est plutôt d'analyser des chaînes de valeur et de voir là-dedans, là où il y a des endroits où ça fonctionne pas, là où il y a des endroits où c'est un peu monopolistique, des choses à un peu casser là-dedans. Et le dernier, c'est des grandes tendances du marché. Typiquement, on bosse sur le voyage d'aventure. Là, on a une start-up dessus. Ça, c'est une grosse tendance. Tu peux aller le voir, quoi. Tu vois qu'il y a des start-up qui lèvent là-dedans, qu'il y a des VC qui mettent de l'argent, que
voyage d'aventure, c'est-à-dire
c'est bah d'ailleurs t'as Airbnb Adventure qui vient d'être lancé. Okay. C'est le niveau d'au-dessus des expériences, quoi. C'est tu vas faire je sais pas de l'exploration dans le cercle polaire, tu vois.
D'accord. Ah ouais.
C'est du voyage qui peut s'adresser à tout le monde, mais qui est quand même un peu plus engageant que d'aller à la plage. Et c'est une grande tendance de fond sociétale. Les gens en ont marre d'être...
Devient Mike Horn, quoi.
Ouais, c'est ça, un peu ça. Et les gens en ont marre. Tu peux vraiment le lire dans des rapports, ça, entre les lignes. Tu peux voir que les gens en ont marre d'aller tous à la plage, de faire la même chose. La surexploitation des sites. On a tous vu ces photos, là. Tout le monde fait la queue en haut de l'Everest et tout. Voilà, tu peux aller chercher des grandes tendances et te dire qu'il y a un truc à aller chercher là-dessus.
D'accord.
Donc, en gros, on a ces 3-4 méthodes. On cherche nos opportunités. Quand on les a, on commence à bosser dessus. Ça, c'est l'étape 2. C'est plutôt, on est même plus sur du, même pas encore sur du produit, mais plutôt comment, quelles sont les solutions possibles à ce problème-là. Et là, très vite, on ship des trucs, donc des landings, des trucs comme ça. On les met en ligne et on regarde si ça répond avec quelques centaines d'euros sur du Facebook Ads. Et on regarde si on a une audience qui répond aux problèmes qu'on avait identifiés dans la phase d'avant. Et si on arrive à générer un peu d'engagement sous une phase ou une autre, on prototype des trucs mais qui n'ont rien à voir avec le produit final, on arrive à se convaincre de passer à l'étape
prototype
d'après.
Prototype sans code ?
Ouais, souvent. Webflow, voilà. On code très rarement. Ouais.
C'est ça. Et en combien de temps tu le sors, ton proto ?
Et ça, on le fait, on fait des trucs en 2-3 mois, quoi, okay. Pas plus.
On connaît bien ça parce que nous, c'est exactement ce qu'on fait justement avec Start the Fuck Up. Et c'est ça que je pense qui est hyper intéressant, c'est on code pas. Aujourd'hui, il y a toute cette vague de no-code avec des outils qui permettent de faire des landing pages en 2 minutes, des Airtable qui te permettent de gérer des bases de données, des Zapier qui te permettent de tout automatiser. Donc en fait, avec un tout petit peu de savoir-faire, c'est vraiment possible de faire les premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires sur quasiment tout.
Ouais, carrément. Franchement, en 18 mois, là, on a bossé sur...
C'est quoi l'outil que tu utilises le plus ?
Webflow.
Webflow, d'accord. Ouais. Alors... Pour nos auditeurs, Webflow, c'est un outil donc, pour créer des sites internet où il faut quand même avoir des petites bases en design, non ?
Ouais, c'est ça. Il faut être assez calé en design, mais du coup, pas en code.
Ouais.
Donc, voilà, on a une petite team de product designers.
D'accord.
Et ils peuvent faire tout eux-mêmes sans développeur.
De toute façon, c'est des landings toutes simples. C'est du site vitrine.
Parfois, c'est un peu plus. Hein, on a fait presque jusqu'à des e-commerce, quoi.
D'accord.
Ouais.
Okay. Il y a d'autres outils, hein. Il y a Strikingly, il y a Weblium que nous on a découvert il y a quelques mois qui vient de sortir sur Product Hunt, qui est incroyable, qui permet vraiment d'avoir un nombre de possibilités d'agencement du site qui est incroyable. Voilà. Il y a de plus en plus de choses comme ça. Si tu veux faire une app, tu as Bubble qui vient de lever une tonne en plus et qui te permet de faire ça. Voilà, vraiment, je te pose la question, mais. C'est quand même une énorme erreur aujourd'hui de passer par une agence web avant d'avoir un peu de traction, quoi.
Ouais, c'est sûr, pour plein de raisons, c'est une erreur parce que du coup, c'est pas toi qui maîtrises. C'est une erreur parce que c'est trop cher, trop engageant sur un truc, en effet, où tu sais pas du tout ce vers quoi tu vas aller. Donc, carrément, nous, on essaye de tester le maximum de trucs avec le moins de moyens possible. Et on commence à mettre des moyens quand on sent vraiment un truc qui fonctionne, quoi.
Et comment tu sens quand ça fonctionne ? C'est-à-dire, c'est quoi les bons métriques si... c'est des taux de conversion, c'est
Au début, ce qu'on cherche, c'est de l'engagement plus qu'autre chose. Donc c'est ça, c'est un taux de conversion,
De conversion sur quoi ? Sur laisse ton mail si t'as rien à vendre, tu vois ?
Ouais, c'est ça. Donc ça dépend, c'est au cas par cas qu'on décide de ça. Mais en effet, si c'est des landings, ça peut être ça. Ça peut être, est-ce qu'ils ont lancé des recherches, tu vois, si on a bossé sur des comparateurs ou des formes d'OTA, c'était combien de gens commencent
OTA,
ça
c'est...
Online Travel Agency.
D'accord.
Voilà, c'était est-ce que des gens commencent à remplir, à lancer des recherches, engagent un peu avec le produit. D'une manière ou d'une autre, c'est au cas par cas, mais c'est trouver un ou deux métriques qui valide la proposition de valeur. C'est surtout ça. C'est dire, on a lancé ce truc-là pour ça. Est-ce que derrière, j'ai une ou deux preuves qu'ils l'ont vu et qu'ils y mettent de la valeur ? Voilà. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire au début. Par un moyen ou un autre. Ça peut être laisse ton mail, ça peut être interagir avec la plateforme, lance. On a fait des trucs comme ça. On avait plein de sites avec des boutons buy qui te renvoient nulle part, mais est-ce que tu as pu les amener un peu loin dans le funnel ? Des choses comme ça, quoi.
Tu analyses ça et en gros, tu décides de tuer ou de pivoter.
Et d'ailleurs, Ojar qui est très bien là-dedans. pour voir
Hotjar,
en
Smartlook,
tu vois en live ce que les gens font sur le site, c'est assez intéressant.
C'est pas mal. Smartlook aussi dans le même dans le même style. C'est intéressant aussi de de pas réfléchir que quanti, mais parfois qualitatif en regardant des sessions.
Nous à ce moment-là, en fait, donc c'est une phase 2 pour nous. On est que quali quasiment. Et on fait pas mal de quali complémentaires, c'est-à-dire même sans produit, des entretiens quali avec des gens. On parle avec pas mal de monde. Quoi. Okay. Donc,
et vous faites des interviews utilisateurs à ce moment-là ou pas? Beaucoup.
Ouais, on en fait pas mal.
Qualitative aussi.
Qualitative, ouais. On peut faire du quanti, mais c'est
mieux quali, hein.
Plus lourd, mais c'est surtout quali. Ouais.
Okay.
Et le quanti, tu le fais avec tes landings, du coup.
Et à quel moment tu te dis, OK, là, il y a quelque chose, on passe à l'étape.
Et donc, voilà, ouais, quand on voit cette forme d'engagement, ou en tout cas, quand on a validé qu'on a certains maîtrises qui confirment que la proposition de valeur initiale qu'on avait fonctionne, sinon on la change, c'est-à-dire on repart un cran avant et on retravaille ça. À ce moment-là, on passe à la phase d'après et là, on est plus sur un MVP, donc on veut vraiment, on commence à faire un produit. Parfois, on code toujours pas, hein, mais du coup, ça commence à ressembler à un vrai produit qu'on ship, sur lequel on met un peu d'argent en termes d'acquisition. On fait quasiment que du B2C, nous, où tu commences à mettre les premiers milliers d'euros pour voir ce que ça donne. Tu commences à avoir un vrai modèle économique que tu veux tester, que tu veux un peu tester, sur lequel tu veux du retour. Voilà. Et ça dure en général 4 à 6 mois.
OK. Et après
on est dans la même situation qu'un investisseur en seed, quoi. Donc, on veut à la fois des bons metrics d'engagement, de traction, et montrer qu'on arrive à faire les transactions, quoi. Donc, il y a un modèle financier qui commence à fonctionner, quoi.
Et
quand c'est le cas,
l'entrepreneur, tu le recrutes à quel moment du process?
On le recrute au tout début, enfin juste après le.
Un entrepreneur, deux entrepreneurs.
On prend en général deux.
Deux.
Parfois, ils démarrent tout seuls.
Un technique et un business?
Pas forcément. On prend le business d'abord. C'est pour ça qu'on les prend rarement ensemble. On prend le business d'abord et après, on regarde ce que va être le challenge de cette boîte. Est-ce que c'est une boîte tech?
Marketing.
Est-ce que c'est une boîte d'ops? Est-ce que c'est une boîte produit? Voilà. Et on met le deuxième avec qui va bien.
Donc, le premier, c'est un profil business toujours.
Ouais, c'est le futur CEO, quoi, en gros.
Et après, tu le back.
Et ensuite,
avec
ça dépend de ce que le projet prend comme tournure. Et il arrive juste au moment où on a trouvé une opportunité. Donc, la première phase que je décrivais, l'entrepreneur, il arrive, on lui dit, regarde, nous, on a identifié ce problème-là, ça a l'air de tenir la route, bosse avec nous sur la solution.
Voilà. Et il arrive avec un salaire minimal, quoi.
Et il arrive avec un petit salaire, ouais. Suffisamment pour que au bout de 2 mois, il ne soit pas obligé de partir, et suffisamment peu pour que son driver, ce soit vraiment l'equity. Il est là pour monter une boîte, quoi.
Et une fois que la boîte est montée, il n'a plus de salaire.
Et une fois, il a le salaire de sa boîte, quoi. C'est-à-dire, après, c'est une discussion avec son ou ses investisseurs.
Comme une boîte qui lève en seed, on va payer 2000 euros par mois le gars pour qu'il puisse quand même manger. Et...
Voilà.
OK, hyper intéressant. Et du coup, c'est quoi ton conseil aux gens qui nous écoutent et qui veulent lancer leur boîte en B2C ou en B2B? Est-ce que c'est le même conseil que tu donnerais aux deux?
Le premier de base... ça va bien avec le titre du podcast, quoi. C'est d'être conscient du fait qu'il s'engage dans une belle galère, mais les deux mots vont bien ensemble, c'est-à-dire c'est galère, mais c'est cool, quoi. Mais pour l'avoir fait 4 fois, j'ai pas une seule fois, ça n'a pas été galère à un moment ou à un autre, parfois plus longtemps que d'autres, mais
si c'est dur, c'est que c'est normal.
Ouais, voilà, exact. Et
si c'est pas dur, il y a un problème.
Et parfois, tu le cherches sûrement. Enfin, c'est-à-dire, les gens qui aiment bien faire ça, c'est sûr que tu vas chercher la galère quelque part, parce que sinon, tu le referais pas. Donc, je dirais ça. Je dirais aussi que ça, tu pars pour un certain temps. C'est-à-dire, tu t'embarques là-dedans. Si tu veux le faire sérieusement, tu t'engages pour 4-5 ans, c'est minimum, quoi. Donc, c'est une part conséquente de ta vie. En un an, t'auras jamais, tu peux aller, si tu as bien fait ton boulot au début, c'est-à-dire tu t'as pas jumpé comme ça dans la première idée qui te passait par la tête, si tu as fait un peu le travail d'études dont on parlait, t'arrêtes pas au bout d'un an. Si tu arrêtes au bout d'un an en ayant fait ça, c'est que tu n'as pas creusé suffisamment. Évidemment que tu n'as pas trouvé ton truc au bout d'un an et que c'est dur et qu'il faut repivoter et que tu n'as plus de thunes et que voilà. Donc globalement, si tu le fais, tu es parti pour 4-5 ans, sérieusement. Donc c'est un vrai truc, quoi. C'est engageant, quoi. Donc,
un sacerdoce, comme ils disent.
Et par contre, t'y as plein de trucs cool. Moi, le principal truc qui me drive chaque fois à m'y remettre, c'est que tu peux te lever tous les matins en disant « Putain, quel truc incroyable il peut m'arriver !» Et ça existe dans aucun job, quoi.
Et est-ce que, en parallèle, tu peux aussi te lever tous les matins en disant putain à quelle sauce je vais être mangé aujourd'hui, je peux, ouais, je peux mourir demain.
C'est ça, mais ça en fait partie. Il y a ça, mais il peut arriver un truc incroyable. Peut-être que tu vas signer un truc dingue, peut-être que tu vas lever des fonds, peut-être que, enfin, il y a toujours ce potentiel-là.
Être à l'aise avec l'incertain. Je pense que c'est vraiment ça, ouais, qui définit les entrepreneurs.
Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, plus qu'à l'aise même. Ouais.
Rechercher
c'est,
ça.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est que ça te plaît d'être dans, parce que tu sais pas ce qui peut se passer, quoi. Et effectivement, si t'es averse à ça, c'est, à mon avis, ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, ça fait partie des trucs importants qu'on regarde nous quand on recrute des entrepreneurs. C'est ça. Hein, c'est si tu arrives en ayant besoin qu'on te déroule une méthodo, enfin, t'enlever de l'incertitude, ouais, ça commence pas bien parce que y en aura tout le temps, quoi.
Et petite question un peu deep pour conclure, mais pourquoi est-ce que tu penses que t'as entrepris ? C'était pourquoi t'entreprends plutôt ? Pourquoi tu te fais chier à être dans ces galères ? Au lieu d'être tranquille dans un beau bureau avec un beau salaire,
ouais, ouais,
à gérer 50 personnes dans un beau groupe.
Avec du recul, maintenant, je vois un peu. Je pense que j'ai foncièrement beaucoup besoin d'autonomie, quoi, de pouvoir faire les trucs comme je veux. Donc, le côté, je vais aller dans un grand groupe, voilà, t'as un boss. Enfin, c'est même pas spécialement avoir un boss, mais il va y avoir un truc très récurrent, très méthodique, voilà, et c'était compliqué pour moi, donc c'est un besoin, je pense, ouais, d'indépendance. Et l'autre, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire besoin de me dire qu'il peut se passer un truc. Donc le côté, ce qui m'a toujours fait flipper, moi, dans un taf plus classique, c'est de me dire, bah voilà, je vais être bien dans mon taf, et puis après, je vais me lever tous les matins en me disant, bah ça va être comme ça pour les 3 ans qui viennent, quoi. Mmh. Il ne peut pas. Enfin, il n'y a pas la potentialité qu'il se passe autre chose. Donc, évidemment, on peut monter un peu, on peut changer de job, voilà.
Tu vas pas passer CEO de la boîte.
Il peut rien se passer de majeur pour moi pendant 3 ans, là. Parce qu'en plus, c'est normal, faut le temps que ça, il faut le temps de faire son expérience et tout ça. Et ça a toujours été c'est un truc qui me fait flipper, quoi. Donc quand t'es entrepreneur, bah, t'as pas ça. Tu te dis, si ça se trouve, je suis mort, effectivement. Mais si ça se trouve, il y a un truc incroyable. Et donc, ça te tient un peu. Je pense qu'il y a de ça, quoi.
Il faut être un grand optimiste.
Ouais, carrément.
Moi, je suis persuadé que je vais être millionnaire. C'est ça qui est terrible. Et du coup, les gens, ils disent, mais t'es un malade.
Ou que je vais changer un truc. Ouais, ouais. Ou que ce truc-là, ouais, carrément.
T'es persuadé que tu peux. Éclater demain et devenir.
Et c'est ce qui te tient. C'est ce qui fait que tu peux faire 5 ans de galère d'un truc. Parce que tu te dis. Mais alors, parfois, c'est le. Ouais, parfois, c'est trop. Ou ça va trop loin, mais ouais.
Mais cet optimisme aussi, je pense, définit pas mal les entrepreneurs.
Carrément,
c'est
ouais.
vraiment quelque chose qui est indispensable.
Carrément.
Ok, génial. Et dernière petite question. T'estimes que c'est quoi ta plus grosse erreur que t'as fait au début de tes aventures? S'il y a un truc, t'as dit oh, là, j'avais fait cette erreur-là et plus jamais je la referai pour telle raison. Ouais. Ça serait quoi ?
Ouais, j'en ai deux. Allez, la première, c'était donc l'histoire de la tech sans fil dont on parlait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire d'avoir démarré dans un truc sans penser que ça allait devoir, en étant trop accroché à l'idée de base et sans penser que ça pourrait être tué 3-4 fois et que c'était pas grave. Donc je pense que ça, je l'ai appris. Aujourd'hui, c'est devenu un truc assez commun, mais n'empêche, quoi, entre le savoir et être capable de le vivre, c'est-à-dire tu démarres dans un truc et au bout de 6-8 mois ou un an, un truc auquel tu crois à mort, être capable de le tuer et faire entièrement autre chose ou un truc très différent, c'est pas si simple psychologiquement. Et donc ça, j'ai appris que si t'es pas capable de faire ça, il y a des chances que ça marche pas. Et la deuxième, ça, c'était plutôt chez Wingit, en fait. On en a pas parlé, mais en gros, c'est une boîte qui a été créée en même temps que des gens comme Get Your Guide et d'autres. Get Your Guide, ils ont levé 300 millions. C'est une très grosse boîte aujourd'hui. Nous, on a coulé. Et une des différences majeures, c'est qu'ils ont accepté de... Donc, en fait, on faisait des recommandations de choses à faire à destination, hein, quand tu voyages. Mmh. Et eux, ils ont accepté de référencer la visite du Louvre, le tour en bus dans Paris. Mmh. Voilà. Et nous, on voulait que, je caricature, mais que le DJ set dans le bar cool. Voilà. Et d'un côté, tu as une boîte qui lève 300 millions et une autre qui a arrêté. Donc, ce que j'ai appris de ça, c'est que évidemment qu'il faut aimer ton... On le dit tout le temps, hein, faut que tu aimes ton sous-jacent, que tu sois passionné par ton truc, mais il ne faut pas faire un produit pour toi, quoi, ou qui te paraisse cool. Tu es là pour faire un business. Et voilà. Et là, typiquement, on a voulu faire un truc qu'on aimait bien et, ou en tout cas, pas faire un truc qu'on n'aimait pas. Ouais, sauf que le market et le business, il était là. Et c'est une erreur, clairement. Et je ne la referai pas, celle-ci.
Écoutez les gens, ne pas faire un produit pour toi, mais pour les gens.
Ouais, pour là où il y a le business, quoi. Et tant pis si c'était pas ce que t'aimes le plus, si c'était pas ce que t'avais prévu au départ. tu es quand même là pour essayer de faire marcher un truc, quoi.
Ok. Bah, sur ces belles paroles, Alban, je te remercie beaucoup, pour ce beau témoignage. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. À bientôt.
Au revoir.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Aussi, si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up, on saura s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.